Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une émission à part, un moment de rêverie que Franck Ferrand nous propose cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous allons en effet explorer l'univers d'Alain Fournier à travers les pages d'un roman qui pour certains de nos auditeurs est un véritable refuge, Le Grand Maulne.
Et vous avez invité Jean-Christian Petit-Fils.
Jean-Christian Petit-Fils qui d'habitude vient plutôt nous parler de Louis XIII ou de Louis XVI, parfois de Jésus aussi il faut dire. Il a tendance à se diversifier depuis quelque temps, on va lui poser la question. L'ouvrage qu'il consacre au grand amour absolu idéal d'Alain Fournier est un exemple de délicatesse. Et puisque, vous l'avez compris, cet après-midi, nous parlons de choses raffinées, j'ai demandé à Pierre de Villeneuve de se joindre à nous. Autant dire, Julia, que nous sommes en bonne compagnie.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il aura été l'homme d'un seul roman, je devrais dire peut-être le jeune homme d'un seul roman achevé, car la Grande Guerre a fauché très vite Alain Fournier à 28 ans, alors qu'il avait encore bien des fers au feu. Un seul roman certes, mais alors quel roman? Le Grand Maulne, l'ouvrage totem d'une génération et le phare des suivantes, pas un chef-d'œuvre, disent certains, mieux que cela, une œuvre unique, inclassable, une broderie sensible dans les plis et les replis de laquelle nous allons nous engouffrer dans un instant en compagnie de nos invités. Nous allons les prendre pour guides. Dans un essai qu'il a consacré à celui qui a été son condisciple, puis son beau-frère, Jacques Rivière, vous savez, Jacques Rivière, c'est celui qui est devenu patron de la NRF, un des pivots des lettres française, Rivière cite cette confession très éclairante d'Alain Fournier. Il manque quelque chose à tout ce que je fais pour être sérieux, évident, indiscutable. Mais aussi, le plan sur lequel je circule n'est peut-être pas tout à fait le même que le vôtre. Il me permet peut-être de passer là où vous voyez un abîme. Il y a peut-être pour moi la même discontinuité qu'il n'y a peut-être pas pour moi, pardon, la même discontinuité que pour vous entre ce monde et l'autre. C'est peut-être finalement une des clés du mystère Alain Fournier, un des secrets de cette œuvre à la fois limpide et troublante qu'est le Grand Maulne, à la fois claire dans son expression et étrange dans l'impression qu'elle génère chez le lecteur. La vision irréaliste, quand je dis réaliste, c'est dans le sens irréel poétique du terme, pas dans celui de déraisonnable. Cette vision irréelle de l'auteur et son goût de l'absolu imprègnent ces pages dont je vous résume à grands traits l'argument, tout en redisant bien que l'action n'est vraiment pas l'essentiel de cette initiation à mi-chemin du réel et du rêvé. C'est un narrateur d'abord anonyme et puis qui va finir par s'incarner, qui raconte l'aventure de son condisciple du cours supérieur où il vit en Sologne. Ça commence comme ça, d'ailleurs ça commence par l'arrivée d'Augustin Maulne, le grand Maulne, qui va rencontrer au cours d'une fête étrange une jeune femme dont il s'éprend aussitôt, Yvonne. Il va tout faire par la suite pour la retrouver, en vain, cette quête avec les rencontres qu'elle entraîne et le cœur du roman. C'est le narrateur qui remettra le grand Maulne sur la trace d'Yvonne et lui permettra finalement de l'épouser. Mais ce seront des épousailles éphémères et finalement tragiques. Je n'en dis pas trop s'il y en avait parmi vous qui n'ont pas encore lu ce roman emblématique entre tous. Quand on a dit tout ça, finalement on n'a rien dit. Eh bien à nous maintenant de vous donner l'envie d'entrer plus avant dans le songe.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons donc en compagnie de Jean-Christian Petit-Fils, qui est historien et écrivain, et Pierre de Villeneuve, bien connu des auditeurs d'Europe 1, puisque c'est notre critique littéraire ici.
Bonjour à vous deux, merci de venir nous parler du Grand Maulne. Alors, ce roman paraît en 1913, juste à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est la même année d'ailleurs que la publication du premier tome de la recherche de Proust. Et on est aussi au moment, c'est la grande époque d'Apollinaire, enfin, etc. Donc, des œuvres littéraires qui sont très sophistiquées, très en avance, même avant-gardistes pour ce qui est de Marcel Proust. Et là, avec le Grand Maulne, on a un style qui pourrait tout à fait être issu du milieu du 19e siècle. C'est plutôt dans l'impression qu'on est ailleurs. Bonjour Pierre de Villeneuve.
Bonjour Franck Ferrand. Vous savez, François Mauriac disait de Proust... cette phrase, il disait « Avant Proust, il y avait les récits psychologiques à la Benjamin Constant et les romans d'aventure à la Balzac. » Et Proust a été le premier à faire du roman un univers lui-même. Je pense que on aurait pu interroger Mauriac aussi sur le sur Grand Maulne et sur Alain Fournier. Ce récit est à la fois un roman arthurien, au sens de Perceval. De la même façon que Perceval cherche le Graal, le Grand Maulne va, Augustin,
c'est une quête, hein, c'est ça,
va rechercher Yvonne, disparue quelque part dans Paris. Et ensuite, on va se rendre compte que Yvonne, c'est peut-être pas forcément celle qu'il aime vraiment, puisqu'il y a une autre femme, mais on n'en dit pas plus, comme vous l'avez justement dit. C'est un roman arthurien parce qu'il y a une légende aussi. La légende du Graal, la légende du sentiment amoureux, à la fois éphémère et qui nous échappe. Et puis, c'est un trio entre François, le narrateur, le Grand Maulne et Franz.
François qui a une véritable admiration, c'est le moins qu'on puisse dire pour Augustin.
J'allais y venir,
l'admiration,
c'est-à-dire que François a une admiration pour Augustin et Augustin a une admiration pour Franz.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est un trio sans fin, un cercle vicieux, un chien qui se mord la queue, permettez-moi cette expression. Et c'est peut-être la première fois aussi que les héros sont pas des chevaliers de la table ronde comme dans les romans arthuriens, mais sont des enfants. Et ça...
Des adolescents.
Des adolescents. Et c'est peut-être la première fois que l'adolescent a un aussi grand rôle dans un roman aussi long. Et puis, je pense qu'avant tout, c'est la première vraie autofiction, comme on le dit aujourd'hui des romans des écrivains d'aujourd'hui. C'est la première fois qu'une autofiction est aussi aboutie.
Alors disons-le, parce que je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs seraient étonnés qu'on ne le dise pas, il y a un climat scolaire autour de tout ça. Parce que d'abord ça se passe dans une école, et que c'est l'ouvrage qu'on apprend, j'allais dire presque forcément à l'école. Donc il y a toute une espèce de patine scolaire, d'institution autour de l'œuvre, qui a tendance évidemment à l'affaiblir un peu. Il faut arriver à ressortir le Grand Maulne de l'école, si je puis dire, non ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un parfum de...
Il ne faut pas oublier qu'Alain Fournier était lui-même enfant d'instituteur, d'ailleurs.
C'est
il y a
ça.
Tout ça. Hein.
Il y a un parfum d'Au revoir les enfants, presque, sur le cadre, hein, pas du tout sur l'histoire. Mais il y a un parfum de Louis Malle dans cette cour d'école où tout naît, mais très vite, ce paysage imaginaire, on ne sait pas d'ailleurs au début si c'est de la rêverie, si c'est un mensonge.
Alors voilà, c'est
si
fascinant.
Voilà, et ce paysage retrouvé, un peu comme la manière de la recherche d'ailleurs, hein, à un moment donné, on perd les choses puis on les retrouve à la fin. Il y a le fantasque, le fantastique, on pourrait aujourd'hui comparer ça, et je pèse mes mots, à Harry Potter. Parce que mettez de côté la sorcellerie, vous vous rendez compte que tout part d'une cour d'école, en tout cas d'une école, et ces écoliers deviennent des héros. Et c'est ça la force du Grand Maulne.
En fait, on pourrait presque dire qu'il y a dans le Grand Maulne une exploration de l'imaginaire au sens le plus onirique. Hein. C'est un songe, on ne sait jamais trop ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, ce qui a l'air le plus réel n'est peut-être pas ce qui l'est le plus dans l'histoire. On est constamment comme ça sur une sorte de frange, en fait.
De la même façon qu'à cette époque-là, aussi bien dans la musique que dans la peinture, le rôle du songe est très important parce qu'on a encore en peinture les héritages du Caravage dans les peintres de la fin du 19e, chez Delacroix, même chez Cézanne d'une certaine manière, chez Seurat beaucoup, le songe et puis cette lumière comme ça qui envahit l'étoile. Et dans la musique, je ne vais pas vous citer Debussy ou Ravel, mais tout part de Songe d'une nuit d'été.
Bien sûr.
Et on n'arrive pas à mettre la césure, alors que dans le climat littéraire de l'époque, si vous prenez les récits d'André Gide par exemple, il n'y a pas vraiment de songe, c'est-à-dire qu'il y a c'est vraiment des récits psychologiques sur le sentiment humain, mais le sentiment n'est pas le songe.
Donc il y a une magie dans cette œuvre. Nous y reviendrons à la fin de l'émission, évidemment. J'aimerais qu'on entre davantage dans le Grand Maulne, mais c'était bien de le présenter comme ça et d'essayer de, sinon de cerner le Grand Maulne, parce que ça je pense que c'est très difficile, en tout cas de replacer l'ouvrage.
Hein, et sur l'apparition du Grand Maulne d'Augustin, ce premier jour d'école, souvenez-vous de ce film de Pasolini en 1968, Théorème. De la même façon, on ne sait pas d'où il vient, et ça fait toute la force du personnage, parce qu'il a un passé inconnu.
Merci de m'offrir cette transition messianique, pour ne pas dire christique, vers Jean-Christian Petit-Fils. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils.
Bonjour.
Alors, vous avez un véritable amour pour cette œuvre et pour son auteur, et on a l'impression que vous partagez avec lui, pardon d'être presque trop intime au micro, mais on a l'impression que vous partagez une espèce de timidité, de réserve avec... avec l'écriture de, d'Alain Fournier, pas avec sa personnalité, puisqu'il paraît que lui, à titre personnel, était tout sauf timide, du reste.
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'abord un coup de cœur, évidemment, Le Grand Mot que j'ai lu à 14 ans, que j'ai relu après. Et à l'âge de 20 ans, j'ai lu la correspondance de Jacques Rivière et d'Alain Fournier. Et ça a été là la deuxième révélation après le roman, parce qu'au fond, cette correspondance, c'est le second livre d'Alain Fournier. On dit toujours l'homme d'un seul livre. Il y a eu quelques essais, Colombe Blanchet, on a quelques chapitres, on peut difficilement...
Il était en train de finir un roman au moment où la guerre éclate.
Voilà, lequel s'appelait Colombe Blanchet. Mais cette correspondance, elle est absolument fascinante, parce que Jacques Rivière et Alain Fournier sont deux tempéraments radicalement opposés. Tous deux sont des étudiants en Cagne, donc qui préparent Normale Supérieure. Ils ont été séparés et ils s'écrivent. Et délaissant les programmes, les Rousseau, les Chateaubriand, les Stendhal, les Racine, ils se passionnent pour leur monde, le monde contemporain, celui d'avant la guerre 14. Et ça nous donne donc des pages entières sur Peggy, sur Claude, sur Debussy, sur Maurice Denis, sur Francis Jammes, sur Henri Régnier. Il y a une passion, ils partagent leur passion de la poésie aussi. Tous deux sont très proches et en même temps très éloignés. Jacques Rivière est celui qui analyse, qui est le critique littéraire, il va devenir secrétaire de la NRF. Alain Fournier est plutôt celui de la synthèse, très romantique en fait. Et ce qui m'a intéressé moi dans ce livre, c'est moins le Grand Maulne que l'enfantement du Grand Maulne par Alain Fournier, ce lien entre la vie et l'œuvre, parce que Alain Fournier a mis dans ce roman, dans cet unique roman, il a mis toute sa vie et en la transposant. Et c'est là donc une sorte de réflexion sur l'écriture à travers une biographie littéraire et sur l'amour, bien sûr, l'amour passion et l'amour idéalisé, à travers une biographie très littéraire.
Le frémissement de la grâce, voilà un très beau titre. Nous y venons dans un instant.
Au cœur de l'histoire. Franck et ses invités nous entraînent aujourd'hui dans un monde à part, on vous l'a dit, celui d'Alain Fournier, celui du Grand Maulne.
Qui est-il exactement, cet Alain Fournier, Jean-Christian Petit-Fils? Il est tout jeune, je l'ai dit, il a moins de 30 ans quand il meurt en 1914, très tôt, dès les commencements
pas,
de la guerre.
Même pas 28 ans. Oui. Il est né le 3 octobre 1885 à La Chapelle d'Angillon, donc dans le Berry, dans le Cher.
Dans le Cher, oui.
Et ses parents, en effet, sont instituteurs. Auguste Fournier, à sa mère Albanie. Il a une enfance heureuse, simple, avec sa sœur Isabelle.
Non seulement heureuse, mais il en développera une grande nostalgie, on peut dire.
Absolument. Une nostalgie. Alors, il faut dire que c'est probablement son caractère aussi. Mais chez lui, et c'est absolument étonnant, mais à ce point, c'est que... à partir de l'âge de 17-18 ans, toute découverte va être une redécouverte. Par exemple, on va le mener à Versailles, il va contempler le parc et il va dire « c'est beau comme la Sologne ». C'est absolument merveilleux.
C'est un peu le monde à l'envers.
Voilà, donc il a besoin de filtrer la réalité à travers ses souvenirs. Donc il y a une approche de la réalité qui est très particulière et qui est en même temps passionnante, évidemment.
Qui est réminiscente et qui va très bien avec l'époque, évidemment.
Voilà. Alors, donc ce garçon, il a envie d'arriver. De la même manière que Jacques Rivière aussi, ils vont essayer tous deux s'implanter dans les milieux littéraires, fréquentant les cercles de
dans les classes littéraires. Hein.
Oui, à la Canale, tous les deux. Ensuite, Jacques Rivière ayant échoué et ne voulant pas se représenter au concours de Normale Supérieure, va continuer ses études à Bordeaux. Et puis lui, Alain Fournier, va essayer plusieurs fois de passer l'examen sans succès parce que justement, il est obsédé par l'écriture. Et puis par une belle histoire d'amour dont on parlera peut-être
tout
à l'heure.
On va parler juste après, voilà. Alors cette relation avec Jacques Rivière, elle nous offre effectivement cette correspondance sur laquelle vous vous êtes, vous, largement appuyé. En fait.
Alors voilà, c'est vraiment l'élément déclenchant.
À partir du moment où ils sont séparés, l'un à Bordeaux, l'autre à Paris, ils se mettent à s'écrire constamment. Et ce sont de très grands épistoliers.
Ce sont des pages d'anthologie. Et Alain Fournier fait des essais d'écriture à travers, même dans les lettres à ses parents. On, y a une tournure littéraire qui est très belle. Et donc, c'est pour ça que je disais, c'est le deuxième livre, deuxième œuvre d'Alain Fournier. Et c'est ce qui m'a permis, dans mon livre, de faire un récit de l'intérieur. Non pas une biographie avec tout un appareil critique comme il en existera encore, mais un récit partant de l'intérieur du personnage. Alors... Et montrant ses sentiments, ses émotions, ses réactions devant ce qu'il vit au jour le jour, au quotidien.
Ce qui est amusant, c'est que Jacques Rivière est un peu dans la même position que le narrateur du Grand Maulne vis-à-vis d'Augustin. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est plus analytique et très admiratif envers son condisciple et son ami.
Alors c'est réciproque aussi, il faut dire. Il y a une amitié très profonde entre ces deux jeunes gens. Et vous savez que Jacques Rivière épousera Isabelle, la sœur d'Alain Fournier.
Mm-hmm. Est-ce que le fait d'être beau-frère n'a pas un petit peu modifié leur relation?
Bien entendu, à partir du moment où il y a un couple qui se forme, Alain Fournier se sent isolé, a une grande souffrance et... Les échanges sont plus difficiles. Cela étant, il y a une parfaite entente, avec en même temps, au sein de cette correspondance, on sent des tensions parfois. Ils se jettent du Rimbaud, du Lafont,
oui, ils n'ont pas tout à fait les mêmes admirations.
Ils n'ont pas les mêmes approches. Voilà.
Alors justement,
une grande amitié profonde derrière tout cela.
Il se trouve qu'en 1924, donc très peu de temps avant sa mort, puisqu'il est mort lui-même de la fièvre typhoïde en 1925, ils meurent tous jeunes dans cette affaire. Jeune. Donc Jacques Rivière a écrit un très beau texte où il analyse non seulement le talent, l'œuvre d'Alain Fournier, mais surtout sa psychologie, il essaie de le cerner, il estime être le mieux placé pour le faire, et c'est à partir, enfin ce sont des extraits de ce texte que je vais me permettre de vous lire dans un instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui s'intéresse maintenant plus particulièrement à Jacques Rivière.
Alors, ce texte de Jacques Rivière a été publié dans un premier temps dans les numéros 111 et 113 de la NRF, donc on est au milieu des années 1920, et il est publié, il est reproduit intégralement en annexe de l'édition Folio du Grand Maulne. Donc c'est très facile à se procurer, c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Alors, à propos de l'enfance et de la nostalgie d'Alain Fournier, justement, Jacques Rivière dit... Il me parlait de son pays avec une sorte de passion. Il était né à la chapelle d'Angillon, un petit chef-lieu du canton du Cher, à une trentaine de kilomètres au nord de Bourges, sur les confins de la Sologne et du Sancerrois, en plein centre de la France. Mais c'est surtout d'Épineuil-le-Fleuriel, un plus petit village encore situé à l'autre extrémité du département, entre Saint-Amand et Montluçon, où ses parents avaient été longtemps instituteurs et où il avait passé toute sa première enfance, qu'il me faisait des descriptions enthousiastes et presque amoureuses. Je reconstituais sa vie de petit paysan dans cette campagne sans pittoresque, lente, pure et copieuse, et dont les aspects s'étaient comme incorporés à son âme. Je me rendais compte de ce qu'avait été cette enfance alimentée par la précieuse ignorance de tout autre paysage au monde que celui qu'on pouvait découvrir des fenêtres de l'école. Ça, je trouve ça à la fois un peu vague, mais en même temps magnifique, parce que ça nous ramène exactement au climat qui est celui du Grand Maulne. On a l'impression que le reste du monde n'existe pas. C'est toujours impressionnant, ces œuvres qui sont comme ça, tout pont coupé. Alors, ils vont faire ensemble des découvertes, notamment des découvertes littéraires extraordinaires. Et voilà la découverte des Parnassiens. Je date des environs de Noël 1903. La révélation qui nous en fut faite en même temps à l'un et à l'autre, écrit Jacques Rivière. Pour nous remercier du compliment traditionnel que nous lui avions adressé avant le départ en vacances, notre excellent professeur, Monsieur Francisque Vial, à qui mon éternelle reconnaissance soit ici exprimée, nous fit une lecture de Tel qu'en songe d'Henri de Régnier. Alors Jacques Rivière cite tout le poème qui finit, vous savez, par ces vers célèbres. « Pauvre âme, ombre de la tour morne au mur d'obsidiane. » Nous nous étions déjà penchés sur des textes admirables, écrit Jacques Rivière. Nous y avons senti par instants palpiter quelque chose de tendre et d'exquis. Mais la gangue scolaire qui les entourait emprisonnait aussi leur sortilège. Et là, nous tombions, sans avoir même su qu'il en existât de tels, sur des mots choisis exprès pour nous et qui non seulement caressaient nommément notre sensibilité, mais encore nous révélaient à nous-mêmes. Quelque chose d'inconnu, en effet, était atteint dans nos âmes. Une harpe que nous ne soupçonnions pas en nous s'éveillait, répondait. Ses vibrations nous emplissaient. Nous n'écoutions plus le sens des phrases. Nous retentissions seulement, devenus tout entiers harmoniques. J'ai dit combien il était exigeant en pensée à l'égard des femmes et quelle perfection il leur réclamait comme son dû, écrit aussi Jacques Rivière à propos des amours absolus, des idéaux de son camarade. Il avait été bientôt las des trop pauvres satisfactions que pouvait lui offrir celle qui était à sa portée. Est-ce une exaspération de son attente qui la lui fit croire tout à coup comblée, ou bien allait-il instinctivement chercher un objet inaccessible qui ne pourrait le décevoir, ou bien la vie vint-elle réellement comme il arrive au devant de son imagination et lui présenta-t-elle son rêve authentiquement incarné? Le fait est simplement qu'il rencontra un jour dans Paris, au cours La Reine, une jeune fille merveilleusement belle, qu'il suivit, dont il découvrit par mille ruses le nom et l'adresse, qu'il retrouva et, bien qu'elle eût l'air extrêmement réservée, aborda. Le miracle est qu'il obtint d'elle quelques mots de réponse qui purent lui donner à croire qu'il n'était pas dédaigné. Il sentit que l'étrange apparition devait faire un effort sur elle-même pour briser l'entretien et lui dire « Quittons-nous, nous avons fait une folie ». Des années passèrent sur cette rencontre sans effacer l'impression que Fournier en avait reçue. Au contraire, elle alla en s'approfondissant. La jeune fille avait quitté Paris. Fournier eut beaucoup de peine à retrouver sa trace et quand il y parvint longtemps plus tard, ce fut pour apprendre avec un immense désespoir qu'elle était mariée. Ayant suivi Alain Fournier depuis son adolescence jusqu'à sa mort, écrit encore Jacques Rivière, je puis dire que cet événement si discret fut l'aventure capitale de sa vie et ce qui l'alimenta jusqu'au bout de ferveur, de tristesse et d'extase.
Extrait sur Europe 1 de l'invitation au château composé par Francis Poulenc. À tout de suite avec Franck Ferrand et ses invités. Nous nous parlons aujourd'hui du Grand Moulin.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Avec Franck Ferrand, ses invités, nous parlons du roman du Grand Moulin aujourd'hui et nous parlons plus précisément de Jacques Rivière.
Et oui, Jacques Rivière qui était donc l'ami, le condisciple et le beau-frère d'Alain Fournier qui nous parle de lui et qui nous parle de cette extraordinaire rencontre qu'il a pu faire donc au cours La Reine. On y vient dans un instant. Il dit « Ses autres amours n'effacèrent jamais celui-là, ni même, je crois, n'intéressèrent jamais les mêmes parties de son âme. Il voyait toujours la parfaite jeune fille penchée sur lui. » Il ne lui demandait pas de se caractériser ni de se révéler à lui dans sa différence. Il n'avait aucun besoin, dans le fond, de la connaître au sens complexe et dangereux du mot. Il lui suffisait qu'elle fût impossible comme la vie. Elle non plus n'était peut-être pas tout à fait un être réel. C'est par quoi, en le comblant d'amertume, elle le consolait aussi. On a là, on pourrait dire, le résumé même de votre propre ouvrage, Jean-Christian Petit-Fils. On est dans le cœur du sujet. Là.
C'est très bien dit. Ça se passe, en fait, cette rencontre extraordinaire, c'est le 1er juin 1905. Alain Fournier, Henri Fournier, son vrai nom
hein.
Descend les marches du Grand Palais après avoir vu l'exposition de la Nationale. Et il voit une très belle jeune fille, blonde, aux yeux bleus, éblouissante, au bras d'une vieille femme. Et leurs regards se croisent et il va se mettre à la suivre jusqu'à un bateau-mouche qu'ils vont prendre. Donc tout ensemble, il ne cessera de la regarder sur le bateau-mouche. Le bateau-mouche va aller jusqu'au pont de la Tournelle. Il va la suivre aussi au début du boulevard Saint-Germain où elle va rentrer dans un immeuble. Et il veut la revoir. Et il va revenir quelques jours plus tard, le week-end suivant. Et seulement le jour de la Pentecôte, route qu'il la croise, toujours au même endroit, au début du boulevard Saint-Germain. Elle rentre chez elle, il lui dit « Vous êtes belle ». Et puis à nouveau, elle ressort, il prend le tramway avec elle, il va jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, assiste à la messe avec elle, et puis s'engage la conversation. Elle le repousse au départ, et puis après, ils vont ensemble aller le long du boulevard Saint-Germain vers la Concorde. Et là, ça va durer jusqu'au pont des Invalides, une grande promenade d'une demi-heure, trois quarts d'heure. On n'a pas tout le détail, mais en fait, tout ça va se retrouver, bien sûr, dans le Grand Maulne, jusqu'au moment où elle le dira « Ne me suivez plus, nous avons fait une folie. »
Et nous avons fait une folie, c'est magnifique. Voilà. Tous ceux qui, parmi nos auditeurs, ont comme ça fait des rencontres anonymes et très fortes, moi c'est mon cas, donc je peux vous dire que 30 ans plus tard,
moi
ça
aussi,
ne s'oublie pas.
Hein,
c'est des choses, c'est comme ça. Voilà ce que ça donne dans le Grand Maulne. C'était deux femmes, l'une très vieille et courbée, l'autre une jeune fille blonde élancée, dont le charmant costume, après tous les déguisements de la veille, parut d'abord à Maulne extraordinaire. Elles s'arrêtèrent un instant pour regarder le paysage, tandis que Maulne se disait, avec un étonnement qui lui parut plus tard bien grossier, « Voilà sans doute ce qu'on appelle une jeune fille excentrique, peut-être une actrice qu'on a mandée pour la fête. » Cependant, les deux femmes passaient près de lui, et Maulne immobile regarda la jeune fille. Souvent, plus tard, lorsqu'il s'endormait, après avoir désespérément essayé de se rappeler le beau visage effacé, il voyait en rêve passer des rangées de jeunes femmes qui ressemblaient à celles-ci. L'une avait un chapeau comme elle, et l'autre son air un peu penché, l'autre son regard si pur, l'autre encore sa taille fine, et l'autre avait aussi ses yeux bleus. Mais aucune de ces jeunes femmes n'était jamais la grande jeune fille.
De la Pavane sur Europe 1, composé par Gabriel Fauré-Franck.
Évidemment, la coïncidence est si grande entre ce que nous a raconté Jean-Christian Petit-Fils, cette rencontre d'Alain Fournier dans la vie, et ce qu'il en ressort, ce qu'il en écrit dans le Grand Maulne. La coïncidence est si forte qu'on ne peut que se demander ce qu'il y a d'autobiographique dans ce roman. Alors ça n'aurait pas plu à Proust, ça, mais c'était la démarche de Sainte-Beuve, n'est-ce pas? Aller chercher ce qu'il y a d'autobiographique dans les œuvres de fiction.
Oui, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'auto-fiction.
C'est ça.
Ce que fait aujourd'hui Christine Angot, encore dernièrement à la rentrée littéraire.
On laisse vos références, mon
cher. Quand elle nous parle de la semaine passée avec prétendument son père quand elle a 13 ans. Bon, après, sur un récit beaucoup plus sensible, on va dire. En tout cas, pour en revenir au Grand Maulne, tout à l'heure, on parlait de cette amitié qu'il y a entre Jacques Rivière et Alain Fournier. N'oublions pas qu'au début du Grand Maulne, quand Augustin arrive dans cette classe, François ne sait rien d'Augustin et il le questionne. Et l'autre est très secret. Et en fait, il apprend quand même qu'Augustin avait un jeune frère, un frère cadet qu'il a perdu, qui est mort. Et donc peut-être que François, d'une certaine manière, dans le récit d'Alain Fournier, je dis bien dans le récit, après, est-ce autobiographique ou pas, je ne sais pas, je laisse la parole à Jean-Christian Petit-Fils, mais il retrouve un peu son jeune frère. Et d'une certaine manière, il va essayer de le guider en lui montrant par exemple la lune, en lui disant « moi ce que je veux c'est la lune, à un moment donné il y a ça ». Parce que l'autre lui dit « moi je veux devenir instituteur ». Il dit « instituteur ». De qui se moque-t-on ? Regarde, moi, c'est la lune qui m'intéresse.
C'est vrai qu'il est quand même assez difficile de faire, à partir d'un certain moment, de faire le départ entre ce qu'a vécu l'auteur et ce qu'il nous raconte dans le Grand Maulne.
Oui, alors c'est l'objet même de mon livre. En fait.
Hein, n'est-ce pas, hein ?
C'est
sous-titré d'ailleurs « Le roman du Grand Maulne ».
Oui,
vous avez
absolument.
Fait le roman du roman. Hein.
Absolument. Il faut voir que au moment de cette rencontre, le jour même de la Pentecôte, quand il est dans le tramway avec cette belle jeune fille qu'il regarde, en même temps, il a sorti un petit carnet et il note. Et au fond, cette aventure amoureuse, mais quelque chose qui va bien au-delà en réalité, eh bien, elle est aussi une aventure littéraire, dès le départ. Et nous avons conservé toutes ces textes. Ça a été publié comme les brouillons du Grand Môle, mais en réalité, dès le départ, ce sont des notes concernant cette jeune fille qui s'appelle Yvonne de Quièvrecourt, et elle lui donnera son nom. Il n'aura que ce nom pendant très longtemps. Oui. Ça va être, donc, c'est très, une petite
prénom,
histoire.
Hein, dans le roman.
Il conservera le prénom. Et puis, tous les dialogues qui figurent dans le Grand Môle sont déjà dans les notations de 1905, relatant cette expérience vécue. Donc, là, il y a un mariage complet entre la vie et puis le roman. C'est cela qui... Alors, il va être obsédé, on l'a dit, pendant des années par cet amour qui va au-delà de l'amour. Ce n'est pas une bluette, ce n'est pas même un premier amour. C'est... c'est la quête de l'absolu. C'est cela qui... Il a rencontré en elle une réalité secrète, un mystère, la quête de l'absolu. Il lui écrira ceci plus tard. Car il s'agit de bien autre chose que l'amour, autre chose de plus pur et de plus mystérieux. Et tout cela d'ailleurs va se mêler à une sorte de mystique religieuse. Il ira à Lourdes pendant son service militaire, il rencontrera la Vierge, donc il y aura une espèce d'osmose entre cette image idéale de la jeune fille et celle de la Vierge. Et il a une tentation catholique, comme il dira. Il a été baptisé, bien sûr, mais il avait perdu la foi. Il va la retrouver aussi dans cette espèce d'idéal de possession amoureuse au sens fort du terme, qui va le faire souffrir, qui va le conduire à des mois et des années de souffrance. À chaque anniversaire, il pleure, il s'isole.
Oui, l'anniversaire de la rencontre.
De la rencontre.
Qu'il célèbre, oui, hein, oui, c'est incroyable. Oui, oui. Hein. Et est-ce que cet amour idéal, est-ce que cette quête d'absolu ne s'est pas effectuée au détriment de sa vie amoureuse plus classique?
Alors là, il a eu des hallucinations même, mais il aura des aventures, aventures sensuelles, des liaisons avec une certaine Laurence, avec une modiste pendant très longtemps, une modiste berrichonne, Jeanne Bruno, qui deviendra la Valentine du roman. Il aura aussi une aventure beaucoup plus sérieuse avec Pauline Binda, l'actrice Madame Simone, Madame Simone.
Nature enflammée.
Voilà, exactement. Et là, ils vivront vraiment une passion très, très sensuelle, très forte, mais en même temps aussi, ils envisageront de se marier, mais rien n'y fait. Il a toujours cet idéal en tête.
Je me demandais au début de cette émission si nos auditeurs seraient sensibles à Alain Fournier au Grand Môle. Alors je peux vous dire que oui, les messages affluent grâce à Internet et également sur notre site Facebook.
Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Pour toi, grand monde d'Angino.
Sur Europe 1 de la bande originale du film Le Grand Môle, une chanson interprétée par Richard Anthony. Franck.
Alors, on peut dire que je disais nos auditeurs réagissent.
Vous avez de nombreuses réactions,
oui,
c'est vrai.
Donc, Michel, je ne peux pas toutes les citer, mais Michel me dit que c'est un livre qu'il a découvert alors qu'il avait 12 ans et qu'il l'a suivi depuis à travers le monde. Aujourd'hui, je l'ai toujours. Je suis à La Réunion, j'ai 66 ans et je lis toujours Le Grand Môle au moins deux fois par an. Dit-il.
Est-ce qu'il a trouvé son Yvonne?
Peut-être, il ne nous le dit pas, Michel. Béatrice nous dit qu'elle a elle aussi découvert le livre à l'âge de 12 ans. Elle l'a relu au moins une dizaine de fois depuis. Elle a même assisté à un cours d'agrégation sur le vocabulaire marin présent dans ce livre et qui n'apparaît pas à une première lecture. Et elle dit, c'est mon livre préféré. Le bouleversement de ma vie, nous dit Thierry. Il l'a découvert il y a 36 ans et depuis, ajoute Thierry, même si je ne suis pas prof de français mais instite, c'est bien la littérature qui me passionne chaque jour. Alors merci Alain Fournier. C'est fascinant ce succès et de génération en génération, Le Grand Môle conserve son pouvoir magique, talismanique, Pierre de Villeneuve.
Absolument. Et d'ailleurs, il a été admirablement porté au cinéma avec un Nicolas Duvauchel qui, à mon avis, a vraiment monté sa carrière à partir de ce film-là. Philippe Torreton dans le rôle de l'instituteur. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que sur l'aspect autobiographique, même si c'est une autofiction, quelque part, c'est logique parce que tout premier roman a des écueils de soi, c'est-à-dire qu'on met du sien sans le vouloir presque. Et ça, c'est dans tout premier roman. Et comme Le Grand Maulne est le premier et le seul roman d'Alain Fournier, il n'y a rien de plus logique. En revanche, ce qui manque peut-être par rapport à sa vie, si je me permets, hein, Jean-Christian Petit-Fils, c'est le personnage de Franz. Parce que là, on a quand même un trio. Et le personnage de Franz dans la vie d'Alain Fournier, je ne le vois pas.
Mais c'est un peu lui-même. En fait, Alain Fournier est le narrateur, François Sorel, donc Le Grand Maulne, et puis Franz de Galais.
Sorel, c'est l'autre.
François Sorel.
Oui.
En fait, il faut voir que le cœur même du roman, c'est l'impossibilité de retrouver le paradis perdu. Et il l'a vécu dans sa vie lui-même par ses aventures sensuelles. Il a un sentiment d'impureté. Il le dit à chaque fois, constamment, parce qu'il a une éducation catholique aussi. Et il veut retrouver ce temps de la pureté, les étranges paradis perdus, comme il l'appelle. Et il ne se libérera de ces hallucinations, de cette possession amoureuse, que par un processus d'épuration et d'écriture, un renoncement dans l'écriture, et ça sera l'ouvrage du Grand Maulne.
Mais alors, ce qu'on peut se demander, évidemment, c'est un petit peu ça de la littérature fiction, mais on peut se demander si Alain Fournier avait survécu, aurait-il écrit d'autres livres? Alors, vous nous dites qu'il y avait un roman en préparation qui était prêt à être publié, qu'il écrivait une pièce de théâtre également, mais est-ce qu'il n'est pas, somme toute, l'homme d'une œuvre? Et est-ce que ce qu'il avait à dire n'était pas épuisé dans Le Grand Maulne?
C'est bien possible. C'est bien possible. Les éléments qu'on a de Colombe Blanchet nous font retrouver un peu cette quête de la pureté d'une belle jeune fille. C'est un peu la même chose. Alors, on ne peut pas porter de jugement, parce que ce livre a été publié, mais on n'a que quelques extraits, donc on n'a pas le livre entier. Oui, peut-être qu'il se serait épuisé, et sa mort, évidemment, à 28 ans, au champ d'honneur, modifie aussi la perspective qu'on peut avoir de l'écrivain.
Alors, ça reste ouvert à la fin, hein, parce que il part presque, moi il me fait penser à Jean Valjean quand il a son grand manteau comme ça, il prend sa fille et il part comme
pérégrination
ça.
vers l'inconnu.
On se demande s'il n'y a pas une
nouvelle aventure.
Il prend la fille qui a survécu, mais on ne va pas trop entrer dans, on ne va pas trop dire ça. Les passionnés du roman connaissent évidemment les lieux principaux, mais enfin, on peut rendre hommage à Alain Fournier dans différents endroits. Jean-Christian Petit-Fils.
Oui, alors au moins deux ou trois d'ailleurs. La chapelle d'Angillon, bien sûr, ça, son lieu de naissance, mm-hmm. et surtout Épineuil-le-Fleuriel, donc dans le sud du département, où on a reconstitué complètement la maison. Du couple Fournier, des instituteurs Fournier. On a là les reconstitutions des classes telles qu'elles existaient, avec les cartes, avec les pupitres, avec l'encre. C'est absolument fascinant. C'est les hussards de la République. Ce sont les instituteurs du début du XXe siècle. C'est vraiment très très bien fait, et il y a de nombreux visiteurs qui vont voir sur les traces d'Alain Fournier, sur les traces du petit Henri Fournier, cette maison d'Épineuil-le-Fleuriel qui est à la fois la mairie et à la fois l'école. Et tout ça se retrouve aussi dans le roman, bien entendu.
Bien sûr, on y est. Il y a une vingtaine d'années, je me rappelle, ça a fait un énorme bruit, on a localisé l'endroit où il est mort, en fait. Hein.
Oui,
on était le 22 septembre 1914, donc dans les tout débuts de la Première Guerre mondiale.
Absolument, il commandait une compagnie, la 23e compagnie du 288e régiment d'infanterie. Il est tombé dans un accrochage, un guet-apens. On a du mal à reconstituer exactement ce qui s'est passé. On a retrouvé 21 corps, dont celui parfaitement identifié d'Alain Fournier.
Alors, qu'est-ce qu'on en a fait de ce corps?
Alors, le corps a été enterré
très tardivement,
dans le cimetière militaire de Saint-Rémy-de-Calonne, où il y a, comme tous les autres, une croix blanche marquée donc Henri dit Alain Fournier.
Alors, c'est une de nos auditrices qui nous dit que sa fille est en troisième, qu'elle est en train d'étudier Le Grand Maulne, alors que cette émission tombe bien. Je pense que si elle l'étudie, un certain nombre doivent être en train de faire la même chose en ce moment. Il ne faut pas, encore une fois, réduire Le Grand Maulne à un pensum scolaire, Pierre de Villeneuve.
Non, et puis surtout, ça a été la porte ouverte à plein de récits. Je pense à Vipère au Poing d'Hervé Bazin, je ne vais pas faire de copier-coller, mais en tout cas, ça a été sans doute une source d'inspiration. Et de la même manière que Bonjour Tristesse de François Sagan, des années plus tard, trouve son inspiration dans Le Grand Maulne, certainement.
On peut dire que le Grand Maulne fait partie comme ça de ces grands moteurs, de ces creusets de la
littérature
française.
Autant on emporte le vent d'une certaine manière. Je veux dire, parce que le Grand Maulne lui-même est un péplum.
En tout cas, il y a le même aspect rebondissement, reprise. C'est quand on pense que l'affaire est finie, hop, on redémarre. Ça repart. Et puis cet équilibre instable entre rêve et réalité. J'espère que nous avons réussi à faire toucher cela du doigt à nos auditeurs. Merci beaucoup Jean-Christian Petit-Fils. Votre ouvrage est un vrai bonheur parce que vous aussi, alors vous, ce n'est pas entre le rêve et la réalité que vous oscillez constamment, c'est entre la réalité et la fiction, et vous nous montrez qu'elle a été en quelque sorte le matériau dont s'est servi Alain Fournier pour transcender les choses et nous donner le Grand Maulne. Ça s'appelle Le frémissement de la grâce, c'est sous-titré Le roman du Grand Maulne, et comme tous vos ouvrages, c'est publié bien entendu chez Fayard.